mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est avec Ludo ce soir et Gilles au micro.
Bonsoir.
Claude à la technique. Et nous parlerons ce soir avec le collectif Roosevelt qui a des propositions fort intéressantes sur le travail hein, et surtout la réduction du travail et le partage du temps de travail. Nous en parlerons avec eux, donc c'est David Fels, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes salarié du collectif. Hein.
C'est bien ça.
Voilà. Et Bruno Lamour, qui est donc responsable de ce collectif également.
Voilà. Bonsoir.
Bonsoir. Donc nous parlerons tous du travail, de la réduction du temps de travail et du chômage évidemment ce soir. Voilà, donc nous allons commencer pour essayer de comprendre comment s'est formé ce collectif. Je ne sais pas qui va prendre la parole, mais je crois que c'était en 2012.
Absolument. Voilà. C'est le collectif Roosevelt est né en 2012. En fait, il est né de la constatation par un certain nombre de personnes. Nos fondateurs, c'est Stéphane Hessel, c'est Edgar Morin. Il y a Suzanne Georges aussi, il y a Cynthia Fleury. Et Pierre Larouteau était la cheville ouvrière de la constitution de ce collectif. Il est né, en fait, sur la constatation que tous les programmes des partis susceptibles de gagner les élections de l'époque étaient basés sur le retour de la croissance. Et nous, on montrait très simplement par une courbe, qu'on peut pas montrer à la radio, que la croissance ne peut pas revenir et qu'elle baisse inéluctablement depuis les années 60. On disait même pas qu'on est pour ou contre, on disait « vous pouvez pas baser un programme sur le retour de la croissance quand elle ne reviendra pas ». Mais par contre, on disait que, et on continue à dire que même sans croissance, on peut s'attaquer directement aux maux de nos sociétés, aux problèmes de nos sociétés, et qu'il faut qu'on arrête d'être omnibulé par cette croissance. Voilà. Et donc, du coup, il y a un texte qui a été fait donc par nos fondateurs qui analyse la situation de la crise, ce qu'on appelle la crise, qui est, voilà, et qui faisait 15 propositions. Pour changer la donne, pour basculer dans une autre situation.
Et ces propositions, vous les avez présentées aux différents candidats pour voir un petit peu comment c'était perçu.
Très concrètement, historiquement, un soir à Nantes, Stéphane Hessel rencontrait François Hollande et lui a dit « On vous fait confiance, mais attention, on va quand même surveiller ce que vous faites ». Et il a conclu le débat par « soyez Roosevelt », parce qu'il faisait référence à ce qu'avait fait Roosevelt en 1933. Il avait pris 15 mesures assez radicales, finalement, puisque c'est lui le premier qui a séparé les banques de dépôt et les banques de finances. Il l'a fait en une semaine. Voilà. C'est lui qui a imposé un même niveau d'impôt pour toutes les sociétés sur l'ensemble des États-Unis pour éviter le dumping fiscal. Voilà. Il a fait un ensemble de réformes comme ça, finalement assez radicales, pour l'époque en tout cas. Et il a réussi à sortir les États-Unis à ce moment-là de la situation mortifère dans laquelle ils étaient. Ensuite, bon, on peut critiquer effectivement Roosevelt sur ce qu'il a fait par ailleurs. Tout n'est pas magnifique dans ce qu'il a fait. Mais au moins, il a fait ça et on voulait montrer à l'époque que tout n'était pas perdu, quoi. Qu'il y avait un espoir qu'on peut sortir de la situation dans laquelle on était. Malheureusement, on peut pas dire qu'on a été écouté.
D'accord. Et dans ces 15 propositions, est-ce que tu peux citer 3-4 propositions qui sont pour vous vraiment...
Oui, qui sont
plus fondamentales que les autres, oui.
Alors, je dirais que je vais commencer par dire qu'il n'y en a pas une qui est plus fondamentale que les autres. Pour nous, toutes les choses sont liées. On ne peut pas s'attaquer à une chose. Enfin, on est dans une société complexe, donc tout est lié. Alors, je vais en citer quelques-unes malgré tout. Mais notre slogan actuel de travail, c'est climat, emploi et social. Les penser ensemble, c'est vital. On ne peut pas penser l'emploi sans le climat, on ne peut pas penser l'emploi sans la finance, on ne peut pas penser l'emploi sans le logement, etc. Bon, mais on est bien obligé de commencer par quelque part. Donc la première chose sur laquelle on a agi, c'est sur la séparation des banques, puisque le gouvernement à l'époque, en 2013, a décidé de séparer les banques de dépôt et les banques de finance. Les banques de dépôt et les banques d'investissement. Bon, ça aboutit à une loi Croupion de l'avis même des banquiers, D'accord, c'était une véritable trahison, on peut dire. Et y a pas de secret, hein, les lobbies bancaires étaient là, directement à Bercy, et c'est ce qui a permis en fait de cette loi Groupillon. Même Barnier, à l'époque, était commissaire européen, a fait une proposition juste avant de quitter la commission Barroso, qui allait beaucoup plus loin et qui allait tellement loin que le collectif Roosevelt, on l'a félicité, on lui a dit bravo et voilà. À l'époque, Barnier était interrogé et on lui disait est-ce que vous êtes plus à gauche qu'Hollande ? Il a répondu c'est peut-être pas moi qui suis le plus à gauche.
C'est un aparté, mais on a souvent l'impression que les Français, le gouvernement français, est beaucoup plus traditionnel, voire un peu réactionnaire sur les propositions financières que ses homologues européens. Je pense à la taxe Tobin, par exemple. C'est votre avis ?
Je crois que la taxe Tobin, effectivement, le gouvernement français a tout fait pour qu'on limite considérablement ses moyens. Sur TAFTA, le ministre du commerce extérieur là, a pris des positions intéressantes puisqu'il est contre. Mais David, tu veux intervenir ?
Non, mais c'était juste pour poursuivre. Effectivement, le gouvernement français, en tout cas avec Mathias Fekl, a pris position contre. Mais c'est pour faire mieux passer un autre accord, qui est l'accord avec le Canada, qui va être signé normalement dans les semaines qui suivent. Et donc ça s'appelle le CETA. Et le risque, en fait, c'est que on dit qu'on arrête le TAFTA. Mais en fait, tout ce qui posait problème dans le TAFTA reviendra via le CETA, vu que c'est très facile pour les entreprises américaines d'ouvrir des filiales au Canada et d'utiliser le Canada comme cheval de Troie pour passer ce qu'elle voulait faire passer. Donc voilà, il y a une grosse mobilisation qui viendra à partir de la semaine prochaine, dont la date qu'il faut retenir, c'est le 15 octobre.
D'accord. Voilà. Donc, je voulais juste savoir, parce que là, je vous ai... Enfin, nous, merci d'abord d'être venu à notre radio.
C'est un plaisir.
Vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais je vous avais invité parce qu'en fait, vous êtes en train de mettre en pratique, en fait, une grande campagne nationale sur la répartition du temps de travail. Travailler moins pour travailler tous, c'est un peu ça l'idée. On en reparlera, bien sûr, après la chanson. C'est pourquoi vous avez alors la question que j'avais envie de vous poser avant l'interruption musicale, c'est pourquoi faire ça aujourd'hui alors que la loi travail vient de passer, et pourquoi pas l'avoir fait avant en proposition pour le gouvernement qui aurait pu éventuellement reprendre quelques idées de votre voilà.
Bah, je pense que déjà ce qu'il faut dire c'est qu'on est dans une surenchère permanente.
Oui,
du coup, par exemple, pour certains proposent, notamment à droite, d'aller beaucoup plus loin encore. Pour eux, ils sont pas satisfaits de cette loi. Donc, on va aller toujours plus loin dans la même logique. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde est d'accord, en fait, et même le gouvernement, pour dire que ça va pas créer d'emplois. Donc, pourquoi continuer dans cette voie quand il n'y a pas d'emploi à la clé, alors que c'est quand même la priorité numéro un, et c'est justement ce qui pose problème dans tout débat sur la flexibilité, c'est que le rapport est déséquilibré entre les employeurs et les employés, justement à cause du chômage. Donc on résout aucun problème, alors qu'il y a d'autres possibilités pour faire revenir l'emploi. On pourra peut-être parler tout à l'heure, par exemple, de tout ce qu'il y a à faire au niveau du climat.
Très bien, je vous remercie. Une petite chanson, merci beaucoup.
Tu peux être un ambassadeur, un prince florentin. Tu peux crouler sous les... Il faudra que tu serves quelqu'un.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec David et Bruno du collectif Roosevelt. Nous reprenons cette émission, le cours de cette émission pour parler du TAFTA. Donc, tu voulais intervenir, Bruno ?
Oui, pour expliquer un peu notre positionnement par rapport à la loi El Khomri, par rapport au TAFTA, etc. Le constat que le TAFTA, donc bien entendu, ce serait une catastrophe, ou le CETA serait une catastrophe si on rentrait dans cet accord. Mais en même temps, on s'interroge sur le positionnement de nos mouvements. Pour constater par exemple que le Front National est contre le TAFTA, très clairement. Et donc, je pense que ça doit nous interroger Est-ce qu'on peut continuer à se contenter, c'est un peu méchant pour nos mouvements, mais à être contraint? C'est-à-dire que pour se démarquer du Front National, par exemple, si c'était un objectif, mais pour, je crois que le temps est venu maintenant pour nos mouvements d'être plutôt dans le pour quelque chose. Ça, et c'est quand même un peu ce qu'on essaie de faire au collectif Roosevelt. On essaie d'être plutôt un mouvement de proposition qui nous amène à nous opposer à un certain nombre de positions. Voilà, c'est important. Par ailleurs, on est aussi membre du collectif de la transition citoyenne, qui est un ensemble d'associations et d'entreprises dont la NEF, Enercop, Terre de Liens, qui sont des entreprises, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi on est membre de ce collectif? Parce que ça nous semble aussi très important que nos engagements militants s'inscrivent aussi dans un changement de mode de vie. Et que changer de mode de vie, c'est aussi un positionnement politique. Quitter EDF pour aller vers Enercop, c'est s'opposer au nucléaire, très clairement. Quand on a quelques économies, mettre son argent à Terre de Liens ou à énergie partagée, c'est une manière aussi de décarboner ses économies et donc de ne pas participer ce que font les banques aujourd'hui, c'est-à-dire d'investir dans l'énergie carbonée. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est assez important. Là, je voulais le signaler.
Vous voulez intervenir
Non.
D'accord, très bien.
Non, aussi, par rapport à la... Avant d'attaquer les problèmes sur l'emploi, quel regard vous... D'abord, qu'est-ce qui vous différencie finalement d'attaque dans les propositions pour la régulation financière, en fait, que vous faites, parce que vous en faites? Et puis, la deuxième question qui viendrait après, c'est finalement quel bilan vous tirez des 5 années de crise je ne sais pas trop comment le formuler, mais où, en termes d'action ou de résultats des mouvements collectifs, enfin des mouvements associatifs par rapport à la régulation bancaire.
Alors, la première question, comment on se situe par rapport à ATTAC? Justement, ATTAC fait partie du collectif de la transition citoyenne, donc on travaille ensemble. Mercredi 28, on a fait par exemple une soirée ensemble sur transition et travail, dont on pourra éventuellement parler mercredi dernier. On se situe effectivement sur des combats communs, avec sans doute des positionnements différents, ça c'est certain. Par exemple, sur la loi El Khomri encore, ATTAC a pris position très clairement contre la loi El Khomri. Nous, on s'est contenté de dire que ça allait déséquilibrer la négociation dans les entreprises. Mais surtout, on a dit, ce qu'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, le problème de fond de la loi El Khomri, c'est qu'on ne s'attaque pas à la question de fond qu'est la question du chômage et de la précarité.
Juste sur la question de fond et du chômage, et encore une fois pour croiser les thématiques avec le climat, on est en train de travailler avec ATTAC et avec d'autres associations, notamment le Réseau Action Climat France et une dizaine d'autres organisations, à une campagne qui va se lancer début de l'année sur les emplois climatiques. Parce qu'il y a plusieurs façons de malgré tout ce qu'on nous dit, de créer du travail et de faire baisser le chômage. On va parler du temps de travail juste après, mais il y a aussi un gros réservoir d'emplois au niveau de la transition énergétique, et c'est absurde d'opposer la question de l'emploi à celle du climat. C'est des positions assez traditionnelles parfois même dans certains syndicats, parce qu'il y a des points chauds. Par exemple, il faudra fermer par exemple des usines à charbon, des mines à charbon, des centrales nucléaires. Il y a tout un tas de choses qu'il va falloir d'activités qu'il va falloir détruire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que d'ici 2020, donc en 3 ans quasiment, on peut créer 1 million d'emplois.
Comment ?
Il y a des emplois. Alors là, on est en train, justement, c'est le but de la campagne, on est en train de faire un rapport, en fait, qui s'appuie sur des scénarios déjà existants, mais qui va un peu plus loin. Donc les scénarios connus, c'est ceux de Négawatt, pour commencer. Ensuite, il y a des choses qui ont été faites localement aussi. Par exemple, il y a l'association Bizi qui a fait une étude dans le Pays Basque. Donc, ils ont trouvé que dans la région autour du coup de Bayonne, on peut créer 10 000 emplois. Là, on est en train de voir de façon systématique comment on peut faire. On sait que les gros réservoirs, c'est notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments, tout ce qui est
énergie renouvelable
notamment. Enfin, on est en train de montrer ça et on va faire une campagne justement pour expliquer en détail comment. Après, c'est une question aussi de financement, mais le financement, on peut le trouver, il est déjà là. Après, c'est juste un jeu de réaffecter des budgets, et je pense en particulier, il n'y a pas que ça, mais par exemple le crédit impôt recherche, qui est quand même énorme, donc c'est plus de 30 milliards, et du coup, pour pas créer d'emploi. Donc le problème, c'est pas du tout le financement, mais c'est bien la direction de ce qu'on veut faire dans une politique d'emploi.
Tu parles de répartition des budgets, plus ou moins. Enfin, c'est ça, non ?
C'est des choix politiques. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je leur conseille de regarder le scénario Négawatt. Philippe Quirion, qui était là donc le 28 septembre, ce qu'on avait organisé avec Attac, la soirée qu'on avait organisée avec Attac, nous a présenté dans le détail, effectivement, tous les secteurs où il y aura de la destruction d'emplois, comme l'a dit David, et tous les secteurs où il y aura des créations d'emplois, et c'est plutôt positif. Et ce qu'il disait, ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME, qui est une agence d'État, d'accord. Alors lui aussi fait son propre scénario de transition énergétique et écologique et arrive à peu près, par d'autres types de calculs, à peu près au même résultat. Donc c'est plutôt encourageant, quoi. Par contre, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Je voulais juste répondre parce qu'on a l'habitude de dire que les invités répondent pas aux questions des journalistes. Quel bilan je fais de ces 5 dernières années? C'est sûr que c'est pas un bilan positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi vraiment à imposer nos idées, à imposer notre vision des choses au pouvoir en place. Il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même une victoire. Il faut quand même se dire qu'on y est pour quelque chose par rapport au TAFTA. Enfin, je pense qu'on a quand même réussi au niveau européen, quand même malgré tout, à le bloquer. Ça veut dire qu'en mobilisant les citoyens, on peut arriver à des résultats. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas qu'on se décourage. C'est pas le moment de se décourager, quoi. C'est ça qu'on peut se dire. Mais c'est sûr que on a du boulot devant nous, quoi.
Alors merci pour la transition radiophonique, en tout cas, parce que là, on va parler effectivement du temps de travail, puisque c'est quand même la grande campagne nationale qui est lancée par votre groupe, hein, votre collectif. Donc réduire le temps de travail donc de 32 heures, 4 jours, hein, on va dire que ça comme ça. Pour qu'il y ait plus de gens qui travaillent, hein, voilà, travailler moins pour travailler tous. Donc tout à l'heure, on parlait de savoir pourquoi vous l'aviez pensé que maintenant, mais parce que peut-être que c'est quelque chose qu'il faut penser très longtemps avant de pouvoir faire des propositions. Comment va se dérouler cette campagne et quel est l'objectif réel de cette campagne? Parce que les emplois, si par exemple on veut faire comme l'Allemagne, avoir 4% de chômage, ça va être que des emplois précaires, j'imagine. Donc...
Juste pour commencer, en fait, le premier axe, il y a plusieurs objectifs de la campagne, je vais en développer un maintenant, je vais revenir ensuite pour la suite, c'est qu'il faut lutter contre les contre-vérités, en fait. Déjà, quand je parlais du CICE avant, donc du Crédit Impôt Recherche qui est mis actuellement, c'est une politique de l'emploi, une politique de l'emploi qui coûte cher. On est aux alentours de entre 200 000 et 600 000 euros par emploi créé. Donc c'est énorme. Et quand on regarde au niveau de la réduction du temps de travail qui a été déjà faite, donc les 35 heures, on est à peu près à 8 000 euros par emploi créé. Donc on peut déjà très vite voir que ça coûte pas cher de faire relativement à d'autres politiques de faire de la réduction du temps de travail. Et surtout, ça crée de l'emploi. Malgré tout ce qu'on nous dit un peu partout dans les médias, les études qui ont été faites par les experts qui ont évalué les politiques, et il y a différentes institutions qui ont examiné ça, Donc il y a les études de l'INSEE, il y a les études de la DARES, il y a tout un tas d'études, voilà.
De l'IGAS, dernièrement, un rapport de l'IGAS.
L'IGAS n'a pas fait d'études, mais relaie ses études. En fait, il n'y a personne dans les experts qui ont évalué les 35 heures qui disent que c'était une mauvaise loi et que c'est que ça n'a pas créé d'emploi. Par contre, on entend partout à la radio, à la télé, que les 35 heures, c'est mauvais, c'est un poison et tout ça et tout ça.
On entend aussi que c'était pendant une période de croissance. C'est un argument aussi qui...
Alors là, j'en profite parce que on vient d'écrire un livre au niveau du collectif Roosevelt qui va sortir jeudi, qui s'appelle Stop au chômage et à la régression sociale, où on montre directement que pour les 35 heures, que c'est pas la croissance qui a créé l'emploi, avec tableau à l'appui, et on montre de façon plus générale en fait que la croissance ne crée pas l'emploi, c'est bien la réduction du temps de travail qui crée l'emploi. Donc je vous laisserai découvrir ça dans notre livre, parce qu'après c'est des chiffres et tout ça, mais Bruno va vous expliquer un peu plus le principe, que la réduction du temps de travail, c'est quelque chose que c'est pas seulement la France qui l'a fait, c'est un mécanisme qui se fait naturellement dans différents pays, parce que les économies n'arrivent pas à faire augmenter le volume d'emploi, le total des heures travaillées, et que en fait ce volume n'augmentant pas vraiment, il faut que les gens se partagent. Mais il y a différentes manières de partager.
Oui, on dit souvent qu'il y a une tendance historique à la baisse du temps de travail.
Absolument. Je vais parler sous le contrôle de David, qui a plus des chiffres en tête que moi, mais je crois que la richesse de la France a augmenté, a été multipliée par 2,5 depuis les années 70, d'accord ? La population active a augmenté, mais que par contre, le nombre d'heures travaillées a quasiment stagné. Elle est, je crois, légèrement augmentée, mais a quasiment stagné. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où la population active augmente, mais que le nombre d'heures travaillées reste constant, les gens travaillent moins, soit il y en a qui travaillent beaucoup et d'autres qui ne travaillent pas. Enfin, c'est mécanique. Et quant à savoir si on peut financer ou non...
Il y a des gains de productivité.
Les gains de productivité sont énormes. Donc, je donne toujours l'exemple du supermarché où on supprime 10 caisses et où on remplace par une seule caisse, une personne surveille 10 caisses automatiques où sont passés les salaires des 9 autres personnes.
David, tu voulais intervenir ?
Moi, je voulais juste rajouter, parce que gain de productivité, c'est un mot un peu barbare, mais qui veut tout simplement dire qu'on devient meilleur à produire plus avec moins.
On peut produire plus avec moins de personnes. C'est ça, exactement.
Alors, il y a quand même une question que se pose évidemment toute personne consciente de certaines réalités. Hein. C'est effectivement le chômage de masse perdure depuis toujours. Que certains pays ont réussi à réduire leur taux de chômage, hein, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Et donc, vous, votre proposition de baissement des temps de travail, est-ce que ça n'a pas créé effectivement de la précarité supplémentaire
Alors, c'est effectivement une très bonne question. En fait, désolé.
Juste pour rebondir, on a envie de dire, mais finalement, la réduction du temps de travail, à vous lire, hein, la réduction de travail, du temps de travail, il existe déjà. Sauf que, effectivement, elle est pas très bien payée, quoi.
Absolument. En fait, contrairement à ce qu'on raconte partout, l'Allemagne, elle a réduit son taux de chômage en réduisant le temps de travail. La seule chose, c'est qu'ils ont laissé le marché du travail réduire le temps de travail. Et la conclusion, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à plein temps et d'autres, et beaucoup, une forte proportion, qui travaillent à temps partiel. La Hollande étant le sommet, puisque la moitié de la population travaille en temps partiel. Mais les gens qui travaillent à temps partiel, ils ont un salaire de temps partiel. Donc, ils ne peuvent pas vivre avec ça. Nous, ce que préconisent tous les gens qui ont réfléchi sur la question, c'est que ça ne soit plus... ça ne soit pas le marché du travail qui organise, mais que cette réduction de temps de travail, elle soit régulée et de manière équitable, de manière à ce que on partage le temps de travail et qu'on finance. Alors là, il y a beaucoup de solutions de financement. Le livre en présente plusieurs. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas que les 32 heures. Il y a beaucoup de solutions possibles maintenant depuis le temps qu'on travaille sur ces questions-là. Pour pouvoir financer effectivement la réduction du temps de travail. Et puis, parmi nos propositions, il y a aussi, je le dis en passant, mais aussi qu'il va falloir se poser la question de l'échelle des revenus dans les entreprises aussi.
Alors voilà, c'était la question qui suivait, c'est-à-dire que ça passe forcément par une égalité salariale un peu plus grande, dans la mesure où on peut imaginer que par exemple, selon l'INSEE, hein, les cadres explosent leur temps de travail, et ils le font pas pour des brouettes, en quelque sorte. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que certaines catégories de la population devraient renoncer un peu à leurs avantages salariaux?
Pourquoi pas?
c'est une question.
Oui, moi, je pense qu'effectivement, faut se poser des questions. Quand même, l'écart des salaires aujourd'hui, enfin, je sais pas s'il y a 30 ans, moi, quand j'ai commencé à bosser, les écarts des salaires n'étaient pas au niveau où ils sont, et je crois pas que les cadres dirigeants ou les patrons étaient plus malheureux. Enfin, il me semble pas. Donc,
il faut clairement poser la question du salaire maximum. Ça doit devenir un sujet de débat pour les années qui viennent.
Oui, tu vois, c'était des écarts à 1 à 20 et c'est à 1 à 100 maintenant. Je sais pas. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais
plus loin encore.
Plus loin, oui, d'accord. Très bien.
Il y a Kim Kardashian qui a perdu un sac récemment.
Et si un auditeur l'a retrouvé.
On lui vole à peu près 500 ou 600 années de SMIC.
Je propose une deuxième petite chanson pour aérer l'émission. Merci.
C'est un joli nom, camarade. Au sang fleur du mois de mai.
Et oui, vous avez certainement reconnu Jean Ferrat, un très grand chanteur, malheureusement décédé aujourd'hui. On va reprendre cette émission, c'est Mode d'emploi sur Fréquence Parapluriel, 106.3 FM. Je suis avec Bruno Lamour et David Fels du collectif Roosevelt. Nous parlons bien sûr du partage du temps de travail, évidemment, et du chômage en particulier. Je voulais revenir sur un petit peu le bilan de 35 heures, David. Tu voulais dire quelque chose là-dessus?
Oui, alors là, on a un gros problème au niveau du débat d'idées, en fait, parce qu'on fait face à des contre-vérités qui sont martelées tous les jours. Là on vient de passer à un nouveau stade. Il y a un ouvrage qui est sorti le mois dernier qui s'appelle
Pour en finir avec
les négationnistes ou quelque chose comme ça.
Économique, hein.
Et du coup, il est créé par Pierre Cahuc et André Zyberbeck, qui sont des économistes reconnus et des gens très bien. Mais le problème, c'est que ils s'enfoncent dans une mauvaise foi sans nom en disant que les 35 heures ne créent pas d'emploi. Alors que toutes les études que j'ai citées avant, l'INSEE, la DARES, l'OFCE, montrent que ça a bien créé 350 000 emplois. Et même eux, dans une note de ces rapports, ont bien écrit, en tout cas Pierre Cahuc, a bien écrit qu'il est d'accord avec ça. Donc là, il revient dessus des années plus tard. Et pour expliquer qu'à cause d'une étude faite en Alsace-Moselle qui ne conclut absolument pas au fait que la réduction du temps de travail ne marche pas, conclut en général que la réduction du temps de travail n'est pas possible. Donc il y a tout un tas de choses comme ça, et je vous invite à lire la presse, notamment sur Alternative Économique, qui explique largement pourquoi cet ouvrage sur la question de la réduction du temps de travail dit juste des contre-vérités. Mais c'est pas les seuls. Il y a la une de Challenge qui dit que récemment la RTT ne marche pas. Et donc du coup, notre campagne travail, ce qu'on veut faire la première chose, c'est on a un axe qui va essayer de répondre systématiquement, notamment sur les réseaux sociaux, à ces contre-vérités. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec la réduction du temps de travail, c'est pas ce qu'on dit, hein, chacun ses opinions, mais il y a des faits quand même, des choses qui ont été mesurées, des choses qui ont été comptées, et c'est pas possible de revenir dessus en invoquant des études qui ne peuvent rien conclure. Donc voilà, donc ça c'est le premier axe. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est lancer une pétition pour justement montrer le soutien populaire de envers cette idée, montrer que c'est pas il y a une offensive actuellement de notamment des personnes de la droite et d'universitaires pour mettre fin au débat, mais on va leur montrer que c'est un débat au contraire qu'il faut porter et continuer. Voilà.
Je pensais que quelque chose, ça va être dur dans les mois qui viennent. Juppé étant ouvertement favorable au retour aux 39 heures. Et bien sûr, la loi de travail détricotant, l'air de rien, les 35 heures.
En même temps, la CFDT vient de lancer une grande enquête sur son site, que je vous engage à regarder parce que c'est pas inintéressant. La CFDT est pas connue pour être le syndicat le plus révolutionnaire. Mais, alors, j'ai plus les chiffres, mais les derniers chiffres que j'avais la semaine dernière, il y avait 40 000 personnes qui avaient répondu. Et quand même, les deux tiers des gens qui répondaient disaient que oui, il faut faire la réduction du temps de travail. Donc, ça veut dire que cette idée, malgré tout, reste populaire. Et qu'il va être confronté aussi à ça. Ce qui est catastrophique, c'est que finalement la gauche de j'ai fait des guillemets là,
de gouvernement
a renoncé à ça, a eu honte de ça. Et moi j'avais participé à un débat une fois là où il y avait un député du Parti socialiste qui me disait non mais c'est très généreux ce que vous faites, mais vous n'avez pas compris, on a perdu la bataille culturelle. Et ça, c'est ça qui est catastrophique. C'est contre ça qu'on veut aller. Montrer que la bataille culturelle n'est pas perdue. Alors, il y a peut-être un autre axe aussi sur la campagne travail qu'il faut donner. Donc, le premier, c'est lutter contre les fausses vérités. Le deuxième, c'est faire cette pétition pour engager, en fait, pour pousser le Conseil économique, social et environnemental à s'emparer de la question et pour mettre la réduction du temps de travail en débat au moment de la campagne électorale. Et le troisième axe, c'est essayer de rassembler l'ensemble de tous les mouvements, syndicats, partis qui sont pour la réduction du temps de travail, sans forcément être d'accord entre eux sur les solutions, mais qui sont pour, au niveau français et au niveau européen, pour que cette question ne disparaisse plus, en fait, du débat politique.
Alors, toujours sur les 35 heures, puisqu'on est sur le bilan, je me souviens très bien d'une interview de Nicolas Sarkozy, ça m'avait marqué, en 2007, hein, parce que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait fait une campagne qui était très dure sur les assistants au chômage, et il avait dit quelque chose, c'est presque une concession de sa part, il avait dit les 35 heures ont servi de prétexte à la modération salariale. Et donc, c'était assez intéressant, puisqu'on voit bien qu'au niveau des catégories les moins bien payées, on se souvient qu'il y avait deux SMIC, il y avait un SMIC 39 heures, un SMIC 35 heures, et que le slogan « Travailler plus pour gagner plus », il s'adressait bien entendu aux gens qui, parfois, avaient deux boulots, aux gens qui étaient coincés dans l'espèce de carcan, justement, entre guillemets, des 35 heures pour les bas salaires, finalement. Alors, ça, qu'est-ce que vous répondez, justement, aux gens qui touchent le SMIC, hein, et qui voient, qui pensent, peut-être assez justement, que leur patron ne concède rien, en quelque sorte, et qu'une réduction du temps de travail, et qui voient une baisse de salaire, quelque part.
Alors, on a très bien identifié dans tous les rapports, justement, les faiblesses des 35 heures. On sait qu'il y a eu des chasseurs morts, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas joué le jeu. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans les rapports, la réduction du temps de travail a créé le plus d'emplois dans les entreprises qui ont joué le jeu. En fait, c'est vraiment ça le principe. Il faut vraiment jouer le jeu jusqu'au bout pour créer de l'emploi. Et par contre, il faut mettre effectivement des garde-fous. Alors, il y a beaucoup de propositions. Il y a des personnes qui veulent faire des conventions. Il y a des personnes qui veulent associer un revenu de base, par exemple, de 600 euros, par exemple, pour maintenir les bas salaires, justement. Il y a beaucoup de propositions. Et puis après, je voudrais quand même insister sur le fait que, et ça, c'est une des conclusions d'un organisme très de gauche, hein, qui s'appelle l'Inspection générale des affaires sociales, qui a fait un rapport qui a été censuré cet été, et qui dit l'essentiel, c'est pas de questionner le principe de la réduction du temps de travail. Et ils prennent toute une première partie de ce rapport, que vous pouvez lire sur Mediapart. Il est censuré, mais il a été quand même révélé par Mediapart et Le Monde. Donc la première partie du rapport, elle explique, en gros, elle redit ce qu'on a dit avant, que ça marche, et que, à part quelques-uns qui essayent de polluer le débat, tous ceux qui ont examiné la question disent que ça marche. Et du coup, par contre, ils disent « Oui, mais c'est compliqué de refaire les 35 heures et de reprendre la question seulement sous l'angle hebdomadaire, en fait. » Et c'est un peu aussi le sens d'un appel qui a été lancé en mai par Alternative Économique, qui dit qu'il faut rediscuter sous plusieurs formes. Et en fait, soyons honnêtes, les 35 heures ont marché aussi parce qu'il y a des efforts des salariés et des efforts des entreprises et des efforts de l'État. Et pour reproduire la même chose, mais une échelle, par exemple, sur 4 jours, il va falloir des années de négociations et pour se mettre d'accord. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on ne crée pas d'emplois. Et en attendant, ce qu'on propose aussi, c'est qu'il y a plusieurs solutions pour déjà enclencher un petit peu le mécanisme. Par exemple, commencer par aller vers des réductions volontaires et individuelles. Et là, il y a plein de pistes. Il y a les comptes épargne-temps, les pré-retraites progressives, les congés parentaux partagés par les deux parents à la même durée. Voilà, il y a tout un tas de choses qui existent, qu'on décrit aussi un petit peu dans notre livre.
Tout en tentant de maintenir un pouvoir d'achat tout de même important pour les gens concernés.
Je voulais revenir sur la modération salariale. C'est une vraie question de toute manière, c'est très clair. Alors, je sais que par exemple la CGT demande les 32 heures avec augmentation de salaire pour les bas salaires. Ce qu'on veut au collectif Roosevelt, c'est qu'il y ait débat, c'est qu'on puisse débattre enfin de cette question-là. Donc c'est une proposition de la CGT, elle la pose sur la table, qu'on en débatte. Et d'autres propositions qu'on relève dans notre livre. Mais le problème de la modération salariale, elle est due à quoi ? Elle est due au chômage. C'est-à-dire que tant qu'on aura un chômage de masse comme ça, il n'y aura aucune négociation possible pour les salariés. Moi, je suis dans une entreprise... Il n'y a pas de possibilité, puisque de toute manière, si on n'est pas content du salaire, voilà, on a qu'à se taire. Donc, tant qu'on aura un chômage de masse comme ça, on s'en sortira pas du chantage au salaire. Et c'est ça le fond du problème. Donc, il faut qu'on s'attaque à ça. C'est le meilleur moyen pour lutter contre la modération salariale.
Alors moi, j'avais quand même une question, parce que pour revenir au bilan des 35 heures tout à l'heure, tu parlais des 350 000 emplois créés. Qui ont été principalement créés dans le public. Le problème du privé,
Non, pardon.
J'ai rien dit alors.
C'est créé ou sauvegardé aussi, c'est une nuance qui est importante à faire.
D'accord.
Oui, et puis, c'est vrai qu'on a eu l'impression que, comme elle a été faite dans un premier temps par Martine Aubry, ça visait aussi à favoriser les cadres. Notamment, elle avait pris, pour exemple, les groupes informatiques, qui avaient beaucoup de temps entre deux missions.
Juste aussi, souvent on critique les 35 heures parce qu'elles n'ont pas atteint l'objectif initial de 700 000 emplois créés, qui était l'objectif de base. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas atteint cet objectif parce que ça a été créé pour la moitié des salariés. On s'est arrêté en chemin et du coup, on a une demi-mesure, on a eu demi-emploi.
Puis il y a deux lois. Hein. Il y a la loi Aubryin qui obligeait les entreprises à créer des emplois pour obtenir les baisses de charges en réduction du temps de travail, et la loi Aubry 2 qui n'obligeait pas les entreprises à créer de l'emploi. Et ça, c'est sûr que la loi Aubry 2, c'est une catastrophe, c'est sûr. Enfin, une catastrophe, c'est dommage, quoi. Voilà.
Alors moi, je veux savoir si au niveau des... Tout à l'heure, on parlait de transition énergétique. Au niveau des tu parlais de 1 million d'emplois créés peut-être dans ce domaine. Ce sera dans quel secteur exactement ils peuvent être créés, en dehors des mégawatts et puis de tout ce qui concerne l'arrêt du nucléaire et puis
je vous invite, Bruno peut donner quelques éléments, mais là on est vraiment en train de faire le bilan pour l'instant. On construit un rapport qui sera construit avec plusieurs organisations. Et aussi, bon, on peut créer, mais après on est en train de regarder le financement. Par exemple, l'idée était venue en fait d'une campagne anglaise qui s'appelle 1 million jobs for climate. Et du coup, ils partaient sur le principe que ce serait des emplois publics à financement public. Et en fait, la campagne n'a pas remporté beaucoup de succès pour cette raison-là. Et là, on est en train d'examiner justement les possibilités de financement aussi, parce que pour créer de l'emploi, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de les financer et de trouver quelque chose à faire. Mais là, et pour mobiliser...
Qui finance, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et du coup, par exemple, on se rend compte que pour par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, en fait, les sources de financement sont majoritairement l'épargne, en fait, des ménages. Et donc là, on est en train d'examiner tout ça et on est en train de se concerter et puis on vous donnera les résultats début de l'année prochaine.
On reviendra ici alors.
Avec plaisir.
La rénovation thermique des bâtiments, effectivement, ça, il y a potentiellement énormément d'emplois qui peuvent être créés là-dedans. Il y a aussi un autre secteur où on peut recréer l'emploi, c'est dans l'agriculture. C'est-à-dire que si on sort du type très productiviste de l'agriculture, qui est catastrophique pour le climat, pour notre santé, ça créera de l'emploi. C'est-à-dire que l'agriculture paysanne créera de l'emploi. Ça, c'est certain. Mais quand je disais que tout est lié, la rénovation thermique des bâtiments, ça va aussi entraîner, en fait, une baisse de charge pour les foyers, parce que il y aura besoin de moins d'argent pour se chauffer, tout simplement.
Et puis, il y a la construction de logements neufs, tout de même, est un problème en France manifeste.
Alors, là-dessus, on a une proposition aussi très concrète dans notre manifeste, qui va de pair, en plus, avec une autre campagne des Amis de la Terre, qui, eux, proposent de désinvestir. En fait, nos retraites sont placées dans un fonds qui est placé sur les marchés financiers. Qui est soumis au cours de la bourse et notamment investi dans des entreprises qui produisent des énergies fossiles ou qui ont un rapport avec ça. Donc ils proposent de désinvestir cet argent là parce que nos retraites, l'épargne pour nos retraites finance de notre mort. Nous, ce qu'on propose, c'est complémentaire, c'est de faire comme aux Pays-Bas. C'est-à-dire de prendre ce fonds qui est énorme, hein, c'est à peu près 40 milliards, hein, donc c'est 2 points de PIB, hein, c'est une grosse masse d'argent, et la mettre sur la construction de logements, d'investir pour la construction de logements neufs,
de logements sociaux
notamment, et du coup c'est un investissement qui sera rentable forcément, vu qu'après, une fois qu'on a fait l'investissement, il y aura des loyers qui vont arriver, et c'est le modèle qui est mis aux Pays-Bas, sauf que nous on a préféré spéculer à la bourse avec.
Très bien. Je vous propose une dernière chanson, peut-être pour. Voilà, et puis ensuite on finit l'émission, parce que c'est bientôt 21h30, pardon. Voilà.
Dans la rue anonyme, il y a partout des Jésus. Barbarie.
Copain Jacques Delgeyer qui chantait une chanson de Léo Ferré, bien sûr, le grand Léo Ferré. On reprend cette émission, donc c'est Mode d'emploi, l'émission des chômeurs précaires sur Fréquence Pas Pluriel 106.3 FM. Je suis donc avec Bruno Lamour et David Fels du collectif Roosevelt et on parle évidemment du temps de travail, hein, du temps du partage du travail. Je voulais savoir un petit peu quelles étaient les positions du collectif par rapport à la politique industrielle aujourd'hui.
Oui,
aujourd'hui, hier.
En fait,
Alstom, pour ne pas le citer.
Alstom, etc. Oui. En fait, je vais reciter quelque chose qui a été redit l'année dernière au moment de la COP21. 80% des réserves de pétrole et de charbon doivent rester dans le sol. 80%. C'est faramineux. Sinon, on passe au-dessus des 2 degrés et on va se trouver dans des situations où les premières victimes seront les plus pauvres. Donc, mais ça, c'est une conséquence. Et la COP22, là, qui va démarrer le 6 novembre, là, à Casablanca, théoriquement, on va en parler. Ça a une conséquence. Ça veut dire qu'il y a des secteurs industriels qui doivent disparaître. Et par exemple, tout simplement, on doit diminuer le nombre de raffineries en France, par exemple. Et on peut tout à fait comprendre, c'est absolument normal que les salariés qui sont dans ces entreprises, comme à Alstom, mais comme à Fessenheim aussi, défendent leur emploi. Ils vont pas se sacrifier pour l'humanité. Personne ne se sacrifie pour l'humanité. Et c'est normal. La seule solution, c'est que tout ça soit prévu longtemps à l'avance. C'est-à-dire que vis-à-vis des salariés, on annonce longtemps à l'avance que voilà, votre secteur, il doit disparaître. Comment on fait pour vous préparer à changer d'emploi, pour vous préparer à travailler dans un autre secteur, etc. Et ça met des années. Et ce que je disais, c'est que je trouve ça catastrophique que finalement tout ça ne soit pas pensé en amont. Et je pense que c'est très important pour nos mouvements qui sont un peu entre, j'allais dire, les mouvements plus écologiques qui luttent contre le changement climatique. Et ils ont raison, on est d'accord avec eux. Et puis les syndicats, il faut absolument que, c'est déjà le cas, hein, de toute manière, hein, ça s'est fait au moment de la COP21, mais qu'on se rencontre et qu'on discute justement pour prévoir ça.
Je voulais juste insister aussi sur le fait que ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois créés, comme on a un peu abordé avant, et notamment en changeant notre politique industrielle, notamment en relocalisant l'économie, en allant vers les circuits courts, en rénovant l'agriculture, en faisant tout un tas de choses, la réduction du temps de travail. Enfin, si on a un projet intégré, et par exemple, il y a quelqu'un en France qui donne des pistes très sérieuses là-dessus, qui s'appelle Jean Gadret, je vous invite à le lire, qui intègre vraiment toutes ces dimensions, y compris la réduction du temps de travail, et qui dit que voilà, on peut approcher le plein emploi, c'est pas un objectif qui est inatteignable. Alors est-ce que ça doit être l'objectif final de toute société humaine? Peut-être pas, parce qu'il y a d'autres activités en dehors du travail, hein. On a le droit au temps libre, on a le bénévolat, enfin tout un tas de choses, donc c'est pas la finalité d'une société, c'est pas de mettre tout le monde au travail, mais on peut le faire en changeant de politique intégrative, en intégrant tous les aspects en fait d'une autre société ensemble, et donc il y aura de la casse, mais si on pense maintenant et qu'on agit maintenant, on peut éviter cette casse et aller vers une société du bien vivre.
Je te remercie. On va passer maintenant, on va faire une petite transition. On va parler un petit peu des projets du collectif et surtout du calendrier des manifestations ou des rendez-vous dans le cadre du plan national du collectif Roosevelt. Si vous avez quelques dates à préciser pour les prochains mois, là, peut-être, pour que les auditeurs puissent éventuellement vous rejoindre dans les endroits.
Alors oui, on a quelques dates. On peut donner rendez-vous à ceux que ce débat intéresse, parce qu'on va le continuer demain, en fait, samedi, de 14h à 18h, au Palais de la Femme, qui se trouve 94 rue de Charonne, métro Federbe-Chaligny. Donc une table ronde citoyenne sur le travail. On a une rencontre, on donne rendez-vous à tous les sympathisants du collectif le 9 octobre, c'est dimanche à Orsay, où justement on va discuter un peu de la manière dont on va travailler sur ces questions, sur la campagne dans l'Île-de-France. Le 26 octobre, c'est ça, on a la... David ?
On va faire l'événement de lancement du livre, donc qui, je rappelle, Stop au chômage et à la régression sociale, qui paraîtra le jeudi aux éditions d'Atelier. Demandez-le à votre libraire local. Et s'il y a une couverture, ne l'achetez pas sur Amazon.
C'est aussi les éditions ouvrières. Hein.
Oui.
C'est à 6 euros hein, le livre. Hein,
c'est
donc,
à 6 euros.
C'est donc accessible aux voilà.
Et dans l'écriture.
Aux chômeurs.
Et dans l'écriture, on a fait. On espère que le livre sera vraiment compréhensible par tous. On a essayé de faire au plus simple. Et notamment aussi, je tiens à préciser qu'on parle du chômage. Souvent avec des chiffres, comme on a tenu, alors ça va peut-être pas assez loin dans le volume du livre, à préciser que c'était quand même d'abord une crise de l'avenir, une crise du vécu. Et on rapporte un petit peu aussi, vite fait, l'histoire des luttes du MNCP, de agir contre le chômage.
Les grands ancêtres,
voilà.
C'est ça.
Et voilà. Donc je vous invite à lire. Et du coup, je... profite pour vous faire une exclu. Au niveau du collectif, on est aussi en train de collaborer avec le MNCP, qui est en train de lancer un ouvrage qui sera coécrit avec 25 organisations, et ça sortira en janvier aux éditions d'Atelier toujours. Et le but, ce sera de répondre en fait à une série de préjugés, clichés sur le chômage, la précarité.
Très bien.
Et du coup, il y aura une campagne qui va s'articuler autour de ça aussi dans les prochains mois.
Bruno, ouais.
Alors, autre événement, je vous invite à regarder aussi un mouvement qui s'appelle Les Jours Heureux, le Pacte. C'est un mouvement qui, en fait, a pris au mot en fait, la conclusion du film Les Jours Heureux, où témoignaient les anciens du Conseil national de la Résistance, en disant maintenant c'est à vous les jeunes de reprendre le flambeau. Ils ont repris le flambeau, ils vont sortir un livre avec un centre de propositions, et ils organisent une marche qui arrivera à Paris le 5 novembre et qui va se regrouper avec une marche organisée par les Pas sans nous. Les Pas sans nous, mouvement qui organise un tour de France des banlieues. Donc il va y avoir Place de la République le 5 novembre, à mon avis un événement intéressant. Et entre autres, les Jours Heureux, le Pacte sont actifs sur la question du travail aussi. Et puis le 10 novembre, on organise aussi, avec les auteurs de notre livre, une soirée Place des Fêtes. Voilà.
Très bien. Les dates. Alors moi, j'ai juste une annonce à faire. C'est votre, www.collectif-6roosevelt.fr si vous voulez avoir des informations. Évidemment, tous les gens qui nous écoutent connaissent notre site aussi à nous, hein, Mode d'emploi. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site. En tout cas, merci d'être venu parler de tout ça aujourd'hui avec nous.
Merci de nous avoir invités. Voilà.
Cette émission se termine. Merci Ludo. Merci à Claude pour la technique. Voilà, je me remercie moi-même aussi, pour le coup. C'était la blague du jour. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour nous, mais bien sûr, la semaine prochaine, c'est une autre émission de Mode d'emploi.
C'est l'émission Attack.
Merci Ludo. Voilà, donc cette émission se termine. Merci, restez debout surtout et ne lâchez rien. Voilà.
Et tout de suite, CSM.
Et voilà, bisous aux filles et poignons aux garçons. Ciao.